Baldwin au buzzer. C'est quasiment automatique. Trop petit la dérive.
Ils reviennent bien. Regardez comme ils reviennent bien, Fenerbahçe.
Je vois les Parisiens là qui ont pris des vents dans tous les sens.
Le Real en train de laisser filer ce match. Victoire. Quelle victoire de l'Olympiakos. Un message déjà.
And by the very finest of margins, Anadolu Efes tie this best of five series.
Monsieur Strazel va garder le ballon. Monaco l'emporte encore une fois avec la manière.
Alors là aussi, on a des très beaux playoffs, beaucoup d'intensité, une équipe de Paris qui a fait ce qu'elle a pu et qui l'a très bien fait sur le match 1 face au Fener, mais qui est mené 2-0 sans qu'il y ait grand-chose à redire. Monaco, alors là, Monaco domine le Barça et a l'air lancé vers le Final Four. Et puis, on a les deux autres séries entre le Real et l'Olympiakos, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense.
Et là, l'autre, elle est incroyable.
Panathinaikos, Anadolu.
Elle est magnifique.
Alors, Anadolu, c'est pareil. Hein, c'est...
Anadolu sur la dynamique, Pierrot.
Ils sont en forme au bon moment. Ils n'ont pas une très belle saison. Hein.
Non, ils ont changé de coach. C'est Lucas Banqui qui est arrivé sur le banc. Ils ont récupéré PJ Dozier, qui était un ancien joueur NBA qui était au Partizan l'année dernière. Et surtout, il y a un mec qui fait une campagne de play-off, Vincent Poirier. Il est monumental au Pana. Alors, il profite aussi de l'absence de Mathias. Et en face, c'est Yurt Seven et Wayne Gabriel.
À l'Anadolu, tu veux dire.
À l'Anadolu, oui. Mm. Mais il profite de l'absence de Mathias Le Sor au Pana. Il fait les deux premiers matchs d'exception.
Yurt Seven, c'est quand même le mec qui a son nom. C'est une adresse.
Yurt Seven.
T'habites où ? Bah, Yurt Seven.
Mais Vincent Poirier, tu vois.
C'est une blague de Steve, ça, normalement.
Ouais, Yurt Seven. J'ai regardé les deux premiers matchs. Je me suis dit, pour l'Euro, je veux que Vincent Poirier soit titulaire.
Ah. On en a parlé la dernière fois, il était en balance. Hein,
que ce soit notre big man titulaire.
Ouais. Un titulaire, carrément.
Ouais.
Donc on est d'accord que tu considères que Rudy ne sera pas là.
Qu'il soit là ou pas.
Voilà. Là ou pas.
Okay. Je pense que ce qu'il apporte défensivement, je crois qu'il
a... Qui est Victor 16... ou qui n'est pas Victor, c'est pareil.
Sur le dernier match, il fait 16-10.
Ouais, 16-10, mais il met des contres.
Ouais, et son intensité.
Pick and dive au cercle où tu envoies des ballons en l'air, où c'est fait partie aujourd'hui du package du big man moderne, ouais. D'être capable de capter des alley-oops, surtout quand tu as des meneurs créateurs. Je vois bien Elio Kobo prendre un pick, hop, envoyer ma gauche en haut pour Vincent Poirier. Il a du post-up, il sait renverser les ballons à l'opposé. Le basket FIBA, il connaît comme sa poche.
Et il a cette énergie qui est incroyable. En plus, il peut être intense sur un super court temps. Moi, je trouve magnifique.
Et on en est où de Mathias Le Sor ?
Mathias Le Sor,
qui sera là ou pas ?
Bah, il est en phase de reprise. J'attends de voir. Je suis pas sûr qu'il sera Final Four, peut-être. Mais
non, mais qu'il soit là pour l'Euro.
Tout dépendra de sa reprise qu'il fait avec le Panopa. Après, si
ce sera peut-être un peu court.
Bah, s'il revient pour le Final Four, il sera là.
Oui.
Logiquement. Mais après,
mais dans quel état d'intensité ?
C'est fin août, hein.
Ouais.
Donc t'as largement le temps. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que s'il revient pour le Final Four, il a largement le temps après de
se... Mathias, il va pas avoir de vacances, mon grand, je te le dis tout de suite. Hein. Il va charbonner, oui.
Panathinaikos Anadolu, toi, tu la vois comment, Fred ?
Moi, j'ai beaucoup aimé le shoot de Shane Larkin, donc, parce que tu parles de Poirier, mais Larkin a été extraordinaire.
Il lui aussi fait une saison dégueulasse, mais il est là au bon moment.
Voilà, c'est ça, c'est ce genre de joueur capable de mettre quand il faut. Je sais pas, le PAOK, ils ont l'impression un peu là quand même.
Ouais.
C'est le Pana.
Le Pana, c'est l'habitude.
Mais bon, le Pana, c'est. Il y a tellement de ressources dans cette équipe que tu.
Le problème du Pana, c'est qu'ils peuvent gagner à Istanbul.
Mais sur le papier, sans problème.
Ils ont tellement de matos. Ils ont.
Mais quand tu viens de reprendre l'avantage du terrain, tu reviens chez toi, enfin, tu vois. Il y a quand même ce truc.
Moi, j'aimerais bien voir un match 5.
C'est que sur une série en 5, t'as pas le droit, faut pas. C'est-à-dire que là, l'Anadolu, il faut qu'il finisse à domicile. Sinon, ça va être très compliqué quand même.
Oui,
hein. Donc, c'est pas si évident que ça quand même pour le Pana.
Et toi qui as été au Fener voir un match, la salle de l'Anadolu, c'est une salle magnifique, mais c'est pas la même atmosphère que le Fener. La puissance des supporters du Fener sont quand même plus puissantes que ceux de l'Anadolu. Il n'y a pas une ambiance, c'est pas incroyable, l'Anadolu, Pierrot.
Du coup, le fait que Paris n'ait pas pris le match 1, ça complique énormément les choses quand même. Hein.
Oui, je pense que
ça peut finir en 3-0 ce soir.
Ça peut finir en 3-0. Est-ce qu'ils ont gagné la Coupe samedi ? Il faut déjà rejouer ce soir.
Moi, je pense qu'ils peuvent
le faire sur l'euphorie.
On sait, quand ils sont à la maison, ils sont comme des oufs. Enfin, voilà, je trouve que.
Le problème, c'est que, sur ce que j'ai vu.
Après, s'ils ont du jus encore.
J'ai l'impression que c'est quand même le Fener qui décide du sort des matchs. C'est-à-dire que quand ils mettent dedans, Paris, intense ou pas intense, défensif ou pas défensif, il n'y a rien à faire.
Non, mais moi, je suis pas en train de te dire que Paris va passer.
C'est-à-dire ce qui m'a écœuré sportivement, uniquement, parce que moi, je me suis régalé sur le match 1. Donc, j'étais dans la salle parce que j'étais en vacances là-bas. Ce qui m'a régalé, mais ce qui m'a dégoûté aussi, c'est qu'en fait, Nigel Hayes-Davis, il est impacté par les fautes, il sort. Mais le mec qui le remplace, place, il rentre tout. Tu peux rien faire, ça part de partout. Ils ont 6 mecs à plus de 10 points, alors qu'à Paris, t'en as 3. Et si ces 3-là, ils te mettent pas entre 15 et 20 points, tu fais rien.
Oui.
Donc, pour moi, la série, elle est ingagnable.
Mais c'est pour ça que moi, je suis pas.
Il y a trop d'écarts sur 5 matchs.
Je suis pas en train de te dire, mais on prend.
Tu peux les battre sur un match.
Oui. C'est pour ça que le format des quarts de finale est pas bon pour Paris Basketball, parce qu'ils sont limités en rotation, parce qu'ils sont limités en taille et en gabarit.
En face.
Et qu'en face, il y a du matos partout.
Tu rentres McCollum, Baldwin, Davis.
Tu viens me voir, tu me dis, t'as un bon Bonzi Colson, mec. Je dis, bah, mais Bonzi Colson, il joue au Paris Basketball, il joue 25 minutes par match, il starter.
Là, il rentre, il fait 6 minutes, mais il te met 8 ou 9 points si t'as besoin. Donc,
c'est un Strasbourgeois.
Exactement. Et puis, enfin, le Fener, c'est des mecs qui ont l'habitude des Final Four.
Le coach aussi, un peu.
Le coach,
insupportable. Insupportable.
Il a un bon caractère.
Parce que, bon, franchement, ils ont gagné les deux et c'est normal.
Mais il mérite pas de choper le Paris Basketball.
Mec, il est infernal avec ses arbitres.
Oui.
Mais infernal, mais c'est genre, il reproche tout, les coups de sifflet, tout le temps, même quand il n'y a rien à dire.
Je sais pas, je m'entends bien avec lui. Donc,
je dis pas que c'est pas un bon mec.
Non, mais c'est un fou.
C'est pénible.
Mais tu vois, il a ce côté pays de l'Est où, sur le terrain, il est infernal, infect, etc. Dès qu'il sort, par contre, c'est le mec le plus adorable.
Vraiment. Bon. Et puis Tariq Biberovic, la petite star locale, qui met ses 14 points.
Il faut bien qu'il y ait un Turc qui joue à un moment donné.
Non, mais c'est exactement ce que je me disais. C'est un peu dommage quand même. Il n'y a plus trop d'identité locale dans les équipes de Euroleague.
Le problème, c'est que les joueurs turcs sont.
Ils devraient arrêter aussi les transferts à la mi-saison.
Tu as une deadline à un moment donné. Après, tu ne peux plus jouer en Euroleague. Tu as jusqu'à mi-février. Après, si tu changes d'équipe après, tu peux plus jouer, t'es plus qualifié en Euroleague.
Et tu peux pas les interdire comme ça, c'est pas possible.
Et le problème des joueurs.
Il y a des règles de circulation des travailleurs, donc tu peux pas faire ce que tu veux. Il peut y avoir des règles précises pour les interdire.
Oui, mais t'as des fenêtres de transfert qui sont ouvertes ou fermées en fonction des règlements des ligues.
Mais c'est des fenêtres aussi. Si c'est trop
tard, je trouve que c'est trop ouvert en Euroleague, c'est trop facile en fait pour les équipes qui sont très riches. Dès qu'ils ont un blessé, un problème, une faiblesse, bam, ils prennent un mec qui sort de la NBA.
Oui, mais le problème, c'est que le Fener a pété Wade Baldwin très tôt dans la saison qui était out et ils ont récupéré CJ McCollum, mais qui jouait pas en Euroleague. Qui jouait en Eurocup. Donc, ils l'ont fait venir pour combler là. Mais le problème, c'est que le Fener a des moyens limités, Pierrot. Donc, quand ils perdent un mec, ils peuvent recruter un mec au même tarif, à 1,5 million ou à 2 millions. Mais après,
enchaînons. Monaco, est-ce que c'est pas la bonne année, là? Ils sont en train quand même de faire mal à Barcelone.
Monaco, c'est très bon. Défensivement, ça y est, ils ont enfin compris que tu gagnes au basket en défendant. Et surtout, ils jouent une équipe du Barça où Yann Vézili a joué le match 1, mais il est out pour toute la série normalement. Mais tout s'est fait le tendon d'Achille, donc à l'intérieur.
Donc, il met plus rien.
Il met tout, il met tout à côté. Et qu'ils ont Willy Hernán Gómez qui est blacklisté, mais qui joue par la force des choses parce qu'il n'y a plus personne et qui sont dépendants de Kevin Punter. Mais après, Monaco a trop de matos, c'est trop.
Non, mais après, est-ce que tu peux pas imaginer Monaco maintenant battre les meilleurs sur un match et remporter l'Euroleague?
Ouais, mais les meilleurs sur un match, ça veut dire qu'ils vont jouer au Olympiakos normalement, parce que Monaco a fait 4 de la saison régulière, Olympiakos a fait 1. Ça veut dire que si les deux se retrouvent au Final Four, demi-finale sera Olympiakos Monaco.
Et bon courage. Vraiment, bon courage.
Mais il y a la malédiction, puisque ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années que le numéro 1 de la saison régulière n'est pas champion d'Europe et qu'Olympiakos, il y a une certaine malédiction du Final Four. Ça fait longtemps qu'ils courent après un titre, ils sont crucifiés par le Real.
Ils sont pas armés de ouf cette année quand même.
Ils sont armés, Fred, mais sur un match, c'est très bien que si tu passes au travers en termes d'adresse, t'es mort, oui.
C'est eux qui vont avoir une énorme pression sur les épaules, ça, c'est
sûr. Non, moi, j'ai l'impression que Monaco est capable, en fait, sur des formats d'un match, de battre tout le monde.
Oui, bah, comme Paris, en fait.
Comme Paris, oui, mais avec quand même plus de ressources.
Ah, bien sûr, plus de choses en magasin. Donc, Daniel Theiss, il a fait basculer Monaco d'une très bonne équipe d'Euroleague à un prétendant au titre de champion d'Europe.
C'est vrai.
Et puis surtout, il commence à avoir l'expérience maintenant. Là où avant, peut-être.
C'était les petits nouveaux. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus les petits nouveaux.
Maintenant, ça fait peur, Monaco, un peu. Enfin, je suppose. Hein.
Mais quand tu parles de Monaco maintenant,
quand
t'es
l'Olympiakos, tu prends Monaco en demi, t'es pas heureux quand même, non?
Ah, Evan, il a peur de rien.
Non, Evan.
Et je pense que Bezenkov non plus.
Les joueurs ont peur de rien, mais globalement. Cette équipe-là devient très sérieuse.
Tu les prends au sérieux, tu y vas pas à la légère.
Retour en équipe de France, Eli Okobo, avec un rôle majeur.
Oui, avec Freddy Poitou, oui.
Bah oui, ouais. Nouveau coach, bien sûr.
Et Mathieu Srazel,
je pense, ouais. Ouais. Il fait une belle saison, Mathieu.
Il va falloir faire des choix à un moment, quand même. Il y a beaucoup de monde.
Ça, c'est le boulot de Freddy Poitou.
Ah, oui, mais c'est
bon
choix que je vous demande. Vous êtes dans un podcast de basket, là.
On a déjà fait un podcast spécial avec l'équipe de France, on va pas te redonner nos choix.
Non, mais là, tu viendras rajouter
un titulaire. Moi, j'avais que la PACO sur le champion d'Europe pour Mousfal. Parce que Mousse, ça fait 4 ans qu'il est à l'Olympiakos.
Pour Evan aussi.
Pour Evan aussi, mais Evan, c'est sa première année. Donc si tu perds, bon, mon grand, c'est pas grave, tu seras là l'année prochaine. Mais Mousse, ça fait 4 ans qu'il est là. Ça fait 4 ans qu'il ne pense qu'à être champion d'Europe. C'était lui qui était sur la photo de Sergio Loul avec son bras comme ça, où il prend le tir sur le museau. J'ai envie qu'il soit récompensé un peu, Mousse.
Très bien. Ou une petite finale entre les deux. Ils se rencontrent en demi. c'est ça, les deux Istanbul.
Anadolu et
ça
Feller,
peut être une série de folie, ça par contre.
Ouais, ça va être incroyable.
Ça, ça peut être très intéressant. Ah oui, c'est un match.
Ouais, oui.
Ouais, Abu Dhabi va être fou.
Abu Dhabi, quel.
Ah, on est sur l'oseille là.
Ouais, là c'est dommage quand même, non? Tu aurais fait ça dans une petite salle en Europe.
La Coca-Cola Arena d'Abu Dhabi.
Une belle petite gymnase.
Kozek de Montmartre.
C'est fini? Vous avez autre chose à rajouter?
Non, c'est très bien.
Un joueur à mettre en valeur, un joueur à critiquer en particulier, un Français.
Manjaité, Factor X, oui, des deux premiers matchs contre Barcelone, énorme Manjaité, il a mis Motiyuna sur le banc, il a mis Papayanis en tribune.
Tu veux le voir à l'Euro celui-là encore, non?
Après, à l'intérieur, je sais pas, c'est plus complexe, mais ce que fait Manjaité sur les deux premiers matchs contre Barcelone, bravo.
Allez, le quiz.